La situation, c'est que on n'en pose plus beaucoup, heureusement. Donc les traités d'Ottawa ont fait leur travail, mais il y en a encore énormément qui sont sur le terrain. Et ça, c'est voilà, ça c'est un petit peu le grand échec des traités d'Ottawa. Ça veut dire qu'on a réussi à dire aux gens, il faut plus en poser, il faut plus en stocker, il faut plus en fabriquer. Mais malheureusement, il a pris beaucoup de retard sur les plans établis qui s'étaient. Il s'était fixé 10 ans pour déminer un peu chaque pays signataire et 20 ans plus tard, il y a encore du travail, on a pris du retard.
Alors si pendant près de 18 ans, le nombre de victimes a diminué, depuis 2 ans, il augmente à nouveau. Alors quels sont aujourd'hui les pays les plus touchés ?
Alors maintenant, on parle de... on a toujours l'Afghanistan, on a toujours l'Angola, et maintenant on commence à connaître un peu mieux la situation en Colombie. Alors c'est pas nouveau, c'est simplement qu'on la découvre depuis qu'on a traité les signés, qu'on a signé les traités de paix avec les FARC. Et maintenant, bien sûr, il y a la Syrie. Alors ça, c'est nouveau, la Syrie, l'Irak. Et là, c'est la catastrophe.
Qu'est-ce qui est catastrophique à ce point ? C'est que c'est le type de mine qui est différent ?
Exactement. Donc en fait, les traités d'Ottawa s'attaquent aux mines industrielles, puisqu'on s'est attaqué aux pays producteurs, on leur a dit d'arrêter. Et en Syrie, en Irak, le type de mines qui sont posées, ce sont des engins improvisés. Donc en fait, c'est fait par, c'est fait dans des ateliers, c'est pas du tout géré par un gouvernement ou autre. Et là, un traité peut rien faire, quoi. C'est quelque chose de, c'est du terrorisme à grande échelle.
Entre les mines, j'ai envie de dire, qui étaient commercialisées, ces mines artisanales, quelle est la différence au moment du déminage ?
Alors, le déminage des mines artisanales est beaucoup, beaucoup plus dangereux. Une mine industrielle, quelque part, même si elles avaient des modèles piégés ou autres, c'était déjà la catastrophe. Mais ce sont des modèles très répétitifs. Ça veut dire que quand vous tombez sur un type de mine, on sait comment on va se comporter. On est briefé comment le désamorcer. Une mine artisanale, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Elles évoluent, elles sont toujours plus piégées. Et puis alors, une grande différence, vous passez à des charges explosives qui sont en moyenne de 20-25 kilos. Quand ça pète, quoi. Donc, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est important, de ce point de vue-là, l'appel de Genève qui a suivi, en fait, le traité d'Ottawa, qui inclut, par exemple, les groupes armés, ce qui sont finalement sensibilisés, où ils veulent juste arriver à leur but.
Alors, il faut des gens comme les gens de l'appel de Genève qui s'adressent aux groupes armés, qui s'adressent aux groupes non étatiques, parce que là, il faut pouvoir les approcher d'une manière plus globale, de manière un petit peu moins diplomatique, puisqu'ils sont, ce sont pas des États par définition. Mais encore faut-il que ces groupes jouent le jeu. Quand vous prenez le groupe État islamique, quand vous prenez Boko Haram, les négociations sont beaucoup plus difficiles. Alors, ils ont fait un très très bon travail par rapport aux groupes qui sont prêts à entrer en discussion. Mais voilà, il y a toujours ceux qui, pour l'instant, ne jouent pas du tout le jeu.
Si on reprend le traité d'Ottawa, il y a de grands pays, de grandes puissances qui ne l'ont pas signé. On pense aux États-Unis, à la Chine ou encore à la Russie. Qu'est-ce que ça envoie comme signal, finalement, que les grandes puissances ne signent pas ce traité ?
C'est ambigu. C'est ambigu parce qu'en fait, c'est clair, on dit, les grands n'ont pas signé, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et quelque part, derrière ces grands, vous avez parmi les plus grands bailleurs de fonds du déminage. Donc, au niveau message, c'est pas très positif, malgré le fait que quasiment tous les pays concernés ont signé. Donc finalement, on a quand même avancé malgré ça. Et dans les faits, ce sont par exemple les États-Unis, le plus grand bailleur de fonds de l'effort de déminage. Donc voilà, eux, ils viennent sur des arguments où ils doivent se protéger leurs frontières. C'est ambigu. Oui, c'est difficile, c'est de la diplomatie.
Quels sont les projets dans lesquels la Fondation est engagée actuellement ?
Alors, il y a toujours les projets en cours, là où nos machines travaillent, où on donne du support. On va parler de la Bosnie, on va parler de l'Angola, on va parler... on a encore une machine au Bénin. On vient de livrer maintenant une machine en Israël et on est en train de travailler sur d'autres projets aussi, comme le Tchad potentiellement, la Colombie aussi. Donc voilà, il y a du travail, il y a du pain sur la planche.
À partir de quel moment est-ce que vous pouvez intervenir sur le terrain et former des spécialistes à utiliser vos engins ?
Alors, c'est tout un processus. Diger n'est pas une entreprise qui se contente de vendre des machines. On est une organisation humanitaire, ce qui fait que, généralement, on participe au montage complet des projets. Quand on vend une machine, généralement, c'est tout un projet qu'on a mis sur pied. Donc, en fait, on va devoir chercher des fonds, généralement, ou surtout déjà commencer par étudier la problématique. Est-ce que nos machines ont un potentiel? Est-ce qu'elles vont pouvoir aider? On va sur place, on étudie, on trouve des partenaires. Et puis après, bon, soit le partenaire a les financements, soit on l'aide aussi en partie à trouver des financements grâce aux bailleurs qu'on a en Suisse. On a beaucoup de chance pour ça. Et on a le support du gouvernement suisse, des différentes villes, du canton de Berne. Et quand toutes ces conditions sont réunies, eh ben on peut livrer la machine et former les gens. Généralement, en moyenne, ça prend 2 ans. Et puis il y a des projets comme l'Angola, ça a pris 12 ans à se monter. Donc voilà, c'est très, très fluctuant.
Quand vous vous rendez sur place et que vous arrivez à terminer une mission, c'est quoi qui vous rend le plus fier?
Ben c'est ça. En fait, voilà, quand on travaille chez Diger, faut pas compter sur le salaire, faut pas compter. Voilà, on doit se donner. C'est quelque chose qui est très très prenant. Et puis en fait, c'est pour nous, c'est notre plus beau salaire, c'est de se dire on a abouti. Le plus beau résultat qu'on a eu, c'était le Mozambique, parce que là, on est vraiment allé jusqu'au bout. Hein, c'est encore dans beaucoup d'endroits, on est encore en train de travailler. Et le Mozambique était le pays le plus pauvre et le pays le plus miné. Qu'on a terminé. Et ça a été considéré comme le plus beau résultat de la Convention d'Ottawa, parce qu'en fait, c'était le premier pays dans cet État qui, enfin, nettoyait, est arrivé au bout. Et là, on a été participants de ça, on a beaucoup aidé là-bas. Et ça, c'était, ouais, pour moi, ça reste quelque chose d'extraordinaire.
Qu'est-ce que vous attendez finalement de la communauté internationale quand on voit la situation dans des pays comme le Yémen, la Syrie ou l'Afghanistan, où justement le nombre de mines et de victimes des mines augmente à nouveau?
Alors la première chose, c'est que moi ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils prennent conscience de la situation. Là maintenant, en Syrie, en Irak, au Yémen, en Ukraine, on fait face à une situation où les mines ne sont plus dans des champs, ne sont plus dans des forêts, comme on avait l'habitude depuis la dernière guerre mondiale. Mais en fait maintenant, les mines, ces engins explosifs improvisés, on les trouve de plus en plus dans des contextes urbains. Ça veut dire que vous avez des villes qui ont été rasées, des blocs de béton, et les mines sont là-dedans. Les engins explosifs sont là-dedans. Et pour dégager ça, il faut d'autres moyens. Nous, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on travaille sur des solutions innovantes, parce que les moyens actuels ne permettent pas de travailler là-dedans, ou alors vous travaillez à la main et puis ça n'avance pas. Et moi, ce que j'attends, c'est que maintenant, ces gens prennent conscience de ce qui va les attendre. Il va falloir reconstruire ces villes. On parle de... Juste la Syrie, c'est 11 millions de déplacés, de réfugiés qui veulent rentrer chez eux. Et leurs villes sont rasées, quoi. Plus deux fois la population suisse, quasiment, quoi. Et il me semble qu'il y a un peu encore maintenant, voilà, une dynamique un peu lente en se disant, on va reconstruire, mais c'est bourré d'explosifs là-dedans. Et voilà, prise de conscience avant tout.
Diger fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Est-ce que vous pensez un jour qu'on n'en aura plus besoin de la Fondation Diger?
Alors c'est mon rêve, je demande qu'une chose, c'est de prendre ma retraite ou de changer de métier. Pas parce que j'aime pas, mais parce que j'aimerais arriver au bout. Je vis pas pour en vivre. Ça c'est pas mon but, quoi, de faire de l'argent avec ça. J'aurais fait autre chose sinon. Mais voilà, je vois les choses qui évoluent. On a commencé par les mines antipersonnelles, les champs de mines classiques à grande surface et tout ça. Maintenant, on les pousse plus comme ça, mais par contre, on doit encore les enlever. Donc voilà, on arrivera au bout un jour. Par contre, entre-temps, on a eu les munitions, les sous-munitions qu'on a découvert. On a de plus en plus maintenant ces engins explosifs improvisés qui sont intimement liés au terrorisme. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'un jour on arrivera au bout? J'aimerais répondre oui, mais j'y crois pas beaucoup.